Danga est un talentueux photographe qui s'est donné pour mission de documenter sur Instagram les histoires individuelles, les traditions et les lieux pittoresques dont regorge le Waïla, un terme qui désigne le Grand Nord du Cameroun, une zone géographique qui regroupe les régions de l'Adamawa, du Nord et de l'Extrême Nord, qui sont les régions septentrionales du pays. C'est un amoureux de ces régions et quelqu'un qui a une approche philosophique de la photo qui a accepté d'être mon invité ce jour. Bienvenue dans ce 7e épisode de la première saison de N.com, votre podcast du numérique et des médias au Cameroun. Aujourd'hui, avec Désiré Danga, nous parlons de la manière dont il est arrivé à la photographie, du matériel et des logiciels qu'il utilise pour rendre ses photos aussi expressives et mémorables. Nous revenons aussi sur son approche et sa définition de l'art photographique. Enfin, nous abordons les causes propres au Grand Nord du Cameroun qu'il entend défendre lorsqu'il met l'œil sur le viseur de son appareil photo. Petite nouveauté, une offre publicitaire a été mise en place sur N.com avec 8000 personnes susceptibles d'être exposées à votre publicité. Si cette offre vous intéresse, contactez-moi. Bonjour, Désiré Danga. Je te remercie vraiment, vraiment, vraiment d'avoir accepté mon invitation pour ce nouvel épisode du podcast N.com. Je tenais vraiment à t'inviter à ce que tu t'exprimes sur cette plateforme et je suis vraiment, vraiment très heureux de te recevoir aujourd'hui. Nous sommes à Douala, une ville qui est très loin de chez toi et tu as quand même accepté de nous accorder quelques minutes afin de parler de ton travail de photographe.
Merci René, c'est un plaisir pour moi d'échanger déjà avec toi et d'échanger avec... des auditeurs. J'espère que je pourrai bien m'exprimer sur ce que j'aime le plus faire, la photographie.
Alors, Désiré Danga, comment est-ce que tu arrives à la photographie?
La photographie, je pense que c'est mon papa qui me met dedans, parce que quand je fais seconde, il m'achète un appareil photo. C'était l'époque de l'argentique, mais des compacts argentiques. Il m'achète un appareil photo pour les cérémonies de famille et tout. C'est comme ça que petit à petit je prends goût et je prends vraiment conscience de mon amour pour l'art photographique en 2015 avec Instagram. Et c'est là où j'essaie du mieux que je peux à exprimer cette passion comme je peux.
En fait, l'idée pour moi dans ma question, c'est de savoir quel est le cheminement de ton début, ça veut dire de cet appareil photo argentique jusqu'à aujourd'hui où tu es l'une des pointures en termes de photographie sur Instagram au Cameroun.
Pointu, peut-être modestement, je dirais pas encore, mais sûrement, mon cheminement, c'est que moi, ma photographie, si tu veux, c'est une photographie plus narrative et j'ai un point de vue assez empathique envers ce que je filme. Si c'est des gens, j'essaie de capter leur empathie et de le transmettre ou de la transmettre en photographie. Si c'est des paysages, j'essaie de capter ce qu'elle a de plus contemplatif, de ce qu'elle a de plus, je sais pas, ce qu'elle donne le plus. Donc c'est un peu l'âme de ces choses que moi j'essaie de capturer du mieux que je peux. Donc c'est un peu ça mon cheminement. Maintenant, du point de vue narratif, j'essaie de faire des séries de 3 ou 6 photos selon ce que l'histoire m'inspire. Donc c'est un peu ça.
Alors, quand on regarde ton travail, spécialement sur Instagram, on se rend compte qu'il y a beaucoup de maîtrise technique derrière les photos qui sont publiées. Alors, toi, comment est-ce que tu as appris tout ça? Comment est-ce que tu en es arrivé à faire des photos qui, quand on les voit, on fait « waouh ».
Moi, je pense que techniquement, je suis encore très loin de dire que je maîtrise parce que, si tu veux, j'édite exclusivement mes photos sur téléphone. Donc, c'est des petites applications que tout le monde connaît, Snapseed, Pixlr. Donc, j'essaie juste de retranscrire une émotion du moment et comment est-ce que j'aimerais voir la chose. Parce que c'est important, le point de vue du photographe, c'est Henri Cartier-Bresson qui disait que les photographes ne filment pas ce qu'ils voient, mais ils filment ce qu'ils aiment. Donc moi, je pense que j'essaie de transmettre cet amour de la chose filmée. Et c'est important pour moi parce que, au-delà de, d'avoir le sujet en face de moi, j'essaie de me représenter à travers ce sujet également. C'est-à-dire, j'essaie de me reproduire, si tu veux, dans ce sujet, à travers l'objectif.
Je vais préciser ma question. Tu dis que tu utilises des applications sur le téléphone pour éditer les photos. Mais on utilise toutes ces applications pour éditer nos photos, mais le rendu n'est pas le même que le tien. Donc, moi, je veux savoir comment est-ce que toi, tu en arrives à, comme je l'ai dit tout à l'heure, à faire des photos que quand on les voit, on se dit, ça, c'est extraordinaire. Parce que là, il est question vraiment, vraiment du traitement de l'image.
Moi, je pense que l'editing, pour moi, ne compte pas. Sinon, il ne compte pas beaucoup parce que il est de l'ordre de 15% dans ma photographie. C'est plus à la prise de vue que j'essaye. Je suis un photographe lent qui ne déclenche pas parce qu'il a vu une image belle. Non, il faut que ça vienne du cœur. Il faut que ça me parle avant que je ne pose mon objectif et que je dise qu'à cet instant précis-là, l'instant décisif, comme dirait Cartier-Bresson, que j'aime beaucoup, à cet instant décisif, je peux déclencher, je peux saisir ce que je souhaiterais et le retranscrire. L'editing, maintenant, il vient quand j'ai envie de le mettre en noir et blanc, quand j'ai envie de balancer les blancs, quand j'ai envie de mettre un peu de lumière, etc. Mais sinon, l'editing, pour moi, honnêtement, René, il n'est pas prioritaire dans ma photographie.
Tu dis que l'édition, donc ça veut dire la retouche de la photo, compte pour 15% dans ton travail de photographe. Alors, les 85 autres pourcents sont occupés par quoi ?
Par la prise de vue sûrement. Et de comment est-ce que je prépare ça ? Par exemple, les portraits statiques que je fais. C'est-à-dire, quand je viens, je prends d'abord du temps de causer avec ces personnes, de leur dire quand c'est pas volé, quand l'image n'est pas volée, de discuter avec elles, de les amener là où je veux qu'elle soit, de saisir leur empathie, leur sincérité, pour que je puisse l'exprimer facilement en image. Parce que c'est important pour moi, tu sais. Moi, je suis quelqu'un, je ne vais pas le dire peut-être, je suis quelqu'un d'empathique et j'essaie de transmettre cette empathie dans ma photographie. Et je pense que c'est important parce que de là où je viens, tu sais, c'est une zone du pays où la pauvreté est réelle. Mais les gens connaissent donner et c'est important de saisir cette force du don à travers l'image. Et moi, je pense que c'est plus la direction dans laquelle je vais.
Je tiens à rappeler que Désiré Danga réside dans l'extrême nord du Cameroun. C'est une région que lui-même, il appelle le Waila. C'est bien ça, non ?
Waila. Le Waila. En fait, Waila en Fufulia, ça veut dire le grand nord. Donc, ça va de l'Adama à l'extrême nord.
Les trois régions septentrionales du Cameroun. Et du coup, la chose intéressante que tu as dite, c'est la façon dont tu conditionnes, on va dire, les sujets que tu photographies. Alors, où est-ce que tu les rencontres ?
Généralement, c'est des gens que je fréquente. Ça peut être mon voisin, ça peut être un inconnu, mais avec qui je crée le lien facilement. Et puis, au-delà de ces sujets que je photographie, je pense aussi que finalement, la photographie pour moi est un moyen de survie dans le chaos, si tu veux, psychologique, social, où je vis en fait. Et je pense que c'est important pour moi parce que je me dis que je vais essayer de mettre la lumière sur ces humanités oubliées, sur ces gens qui ne te donnent pas de l'argent, mais connaissent te donner du sourire, de l'empathie, et connaissent t'exprimer la gravité de leur vie par un simple regard. Donc c'est un peu mon approche. Ouais. Surtout pour ce qui est des personnes que je filme ou des scènes de vie ou alors la photo abstraite que j'essaie de faire. Maintenant les paysages, tout le monde le sait, le Grand Nord est doté de beaucoup de paysages. Mais aussi aujourd'hui je suis en train de vouloir rediriger cette prise de vue pittoresque, sinon touristifié, pour me diriger à une prise de vue assez narrative de ce paysage. C'est-à-dire comment je peux filmer les gorges de Kola, pas que pour montrer la beauté du rocher, mais pour exprimer quelque chose d'artistique qui vient du fond de moi et qui soit une écriture photographique qui est mienne. Donc c'est important, je suis en train de me chercher. Je ne m'arroge pas le titre de photographe parce que, comme je t'ai dit, je suis encore amateur. Mais j'ai une sensibilité artistique assez certaine aujourd'hui parce que, si tu veux, je me cultive beaucoup sur la photographie en général. Et j'essaye de tricher un tel, de copier un tel et de voir comment je peux m'approprier son écriture et avoir une direction qui soit mienne.
Le côté narratif de tes images, on le comprend très vite quand on tombe sur ton compte sur Instagram. Où En fait, il y a la photo qui est extrêmement travaillée, mais il y a aussi en dessous ce qu'on appelle une description sur les réseaux sociaux. Alors, on se rend compte que sous chaque photo, en fait, il y a une histoire que tu racontes. Est-ce que ces histoires sont vraies, Désiré?
Elles sont typiquement vraies parce que, comme je t'ai dit, je prends les gens par le vecteur de l'empathie et ça ne vaut pas la peine d'inventer des choses qui n'y sont pas, sinon je passerai pour un menteur. Et si je mens sur une histoire pour me procurer des likes, ça veut dire que je prends un masque. Or, j'évite de le faire, que ce soit en photo ou dans mon esprit, ou bien dans les légendes que j'écris. Donc, au mieux, j'essaie d'embellir l'histoire par des mots, mais l'histoire, au fond, celle que je raconte, est vraie.
Parce que après, quand on est dans la narration, on ne ment pas forcément, mais on va dire, on crée des histoires. Donc, l'idée, en fait, pour moi, dans ma question, c'est de savoir si l'histoire que tu racontes, en fait, c'est une version romancée de ce que tu vis ou alors c'est juste une histoire brute de décoffrage que tu racontes sur la vie des personnes que tu photographies.
Moi, je dirais que c'est une histoire poétisée. Je mets juste un peu de poésie à cette histoire. Mais au fond, c'est vrai, c'est ça. Je ne peux pas raconter la gravité avec les mots durs tels quels. Ma photo, ce n'est pas nécessairement un roman. Mais j'essaie de raconter cette histoire avec les mots qui touchent, les mots qui expriment le mieux ce que je ressens quand je vois l'image.
Ok, mais merci pour ces réponses. Et autre chose, quand on voit ton travail sur Instagram et quand on sait que la région ou les régions dans laquelle tu vis ou d'où tu es issu sont quelque part enclavées, on va dire, sur le plan numérique et même sur le plan des infrastructures. Et nous, en tant qu'internautes, quand on te regarde, on est content de voir qu'en fait, malgré tout ça, il y a des choses intéressantes qui se font là-bas. Il y a une véritable beauté des gens et des lieux. Et quelque part, est-ce que tu te sens pas comme une sorte d'ambassadeur du Waïla?
Ce serait porter un chapeau assez lourd. Mais déjà, je suis content aujourd'hui de la petite mission visuelle que je me suis donnée pour le Grand Nord. Parce qu'aujourd'hui, si tu veux, beaucoup de gens découvrent le Grand Nord sur mon compte Instagram et c'est important. Et puis, moi, je me suis dit que est-ce que c'est nécessaire de monter le Grand Nord sous l'angle du chaos? Tu sais, là-bas, les gens sont très pauvres, les gens ont du mal à manger. Mais il y a cette force que ces gens ont gardée, c'est le sourire qu'ils te donnent, c'est le merci qu'ils te disent, c'est l'hospitalité qui va avec. Après, je me suis dit que, OK, je ne vais pas sur mon Instagram montrer la gravité, chose que les organismes humanitaires, etc., font déjà beaucoup. Je vais essayer de raconter, d'embellir, de raconter le Grand Nord, peut-être pas sous un regard onirique, mais sous un regard plus pittoresque. C'est-à-dire, comment est-ce que je peux raconter, même si c'est la pauvreté, je raconte avec un point de vue qui soit un peu humain, qui donne envie à celui qui vient sur mon Instagram de venir visiter ces gens et de se rendre compte par lui-même comment les gens sont accueillants, les gens sont gentils, les gens sont bien. Je pense que c'est important aujourd'hui parce que, si tu veux, notre humanité fait face à beaucoup de problèmes, pas seulement la pauvreté. L'extrême nord, aujourd'hui, c'est l'insécurité. Tout le monde le sait. Après, si moi, je fais peur à celui-là, je ne l'amène pas à venir voir par lui-même. Et là, je l'aide à se conforter dans ces clichés, choses qui ne sont pas vraies, en fait. Comme je t'ai dit, je m'intéresse à montrer les gens, à montrer l'empathie des gens. Et c'est ce que je fais à travers ma photographie. Je pense que c'est important pour moi aussi parce qu'à un certain moment, c'est moi-même qui tire plaisir avant de le partager.
Désiré, quand on regarde tes photos, on a le sentiment que tu veux nous amener dans un voyage. Est-ce que tu peux vraiment m'expliquer cette volonté intrinsèque que tu as quand tu fais tes publications, tes productions?
Bien sûr, parce que pour moi, je pense que la photographie est un voyage. Du moins, ma photographie est un voyage. Et raconter ça, c'est l'équivalent plastique, du moins esthétique, de déplacer les gens d'un point à l'autre. Et déplacer, pas nécessairement physiquement, mais ça peut être un voyage émotionnel, ça peut être un voyage esthétique. C'est pourquoi, avec le hashtag « Ceux qui prennent la route », je mets beaucoup la route parce qu'aujourd'hui, j'ai essentialisé la route dans mon art photographique parce que moi, je suis un vagabond déjà. Et un vagabond raconte son voyage, c'est ce que j'essaie de faire dans ma photographie.
Donc pour les auditeurs, ils peuvent tout simplement suivre le hashtag « Ceux qui prennent la route » sur Instagram. Thank you. Nous sommes de retour avec Désiré Ndanga, qui est mon invité pour cette édition du podcast. Maintenant, nous allons nous appesantir sur le matériel que Désiré Ndanga utilise pour sa photographie et aussi sur, on va dire, le côté un peu extra-photographique, ça veut dire les personnes avec qui il travaille. Donc, on va commencer avec le matériel. Désiré, aujourd'hui, tu photographies avec quel type d'appareil ?
Je photographie avec un Canon T3 Rebel. Il est vraiment bas de gamme. Il m'a été offert par un ami à mon anniversaire et c'est celui-là que j'utilise jusqu'à aujourd'hui. Et j'ai deux objectifs, un objectif 18-135 et un 50 mm pour les portraits. Et comme je dis souvent, et ça c'est un photographe que j'aime beaucoup qui m'en a convaincu, Edouard Tamba, le matériel, quand tu commences en photographie, ne te cale pas sur le matériel, ne te focus pas sur la qualité du matériel. Exprime ton art à travers ce que tu as, c'est important. Et aujourd'hui, je suis la preuve que c'est vrai et que c'est important. Donc, pour le matériel, comme je t'ai dit, c'est un Canon Rebel T3.
Mais ça, c'est celui que tu utilises aujourd'hui. Tu n'as pas commencé à faire de la photographie aujourd'hui. Tu nous as parlé de l'appareil photo argentique. Est-ce que c'est cet appareil photo argentique que tu utilisais pour tes premières photos sur Instagram ou alors quels sont les appareils qui t'ont permis de t'exprimer en fait en tant que photographe?
Moi j'ai commencé avec un petit compact, mais celui que je te disais, ça c'est des choses des années 2000 là-bas, on m'a offert, je ne connaissais pas, en fait, il ne me servait vraiment pas à grand chose. Je prends conscience que j'aime la photographie et je peux faire la photographie en 2015 et j'avais un petit compact Canon aussi, mais il ne m'aidait pas à faire grand chose. Mais c'est maintenant avec mon Canon Rebel que je sais que j'aime la photographie, que je peux m'exprimer, je peux donner un point de vue important. Donc c'est un peu ça. Sinon, en termes de matériel, honnêtement, je ne suis pas calé. Je n'ai pas un super bon matériel ou un super lourd matériel comme les autres pour exprimer mon art. Je pense que le matériel, c'est vrai, pour l'esthétique, ça compte, mais il ne compte pas beaucoup pour moi aujourd'hui parce que mon Canon Rebel m'aide à faire ce que je veux, c'est important.
De toutes les manières, en termes de photographie, il n'est pas toujours important de se lancer dans ce qu'on appelle la course aux armements, donc ça veut dire avoir le dernier matériel de pointe et tout. Que penses-tu de la photographie avec les smartphones ?
Je pense qu'aujourd'hui, le smartphone est un outil incontournable, quoi qu'on le dise, mais ça dénature, pour moi, dans le sens fondamental de la photographie, ça dénature un peu le travail du photographe parce qu'un photographe, c'est une écriture, un photographe, c'est une école, un photographe, c'est un point de vue. Mais si tout le monde peut faire le même point de vue à ce moment, on est tous dans le même bassin et on a du mal à spécifier, sinon à catégoriser les gens dans leur art. C'est dommage, mais c'est une réalité qu'on est obligé de faire avec aujourd'hui. Mais il y a aussi cette chance que derrière ce smartphone, il y a beaucoup de gens qui se démarquent et qui ont vraiment l'œil photographique. Parce que pour moi aujourd'hui, la photographie, c'est pas, comme je te disais, c'est pas tellement le matériel, c'est de voir. C'est Cartier-Bresson qui disait toujours que voir est un tout. Comment tu vois, c'est important. C'est pas le matériel, c'est pas le smartphone ou l'appareil photo. Mais comme je t'ai dit aussi, ça réduit la qualité d'une écriture photographique en termes de où est-ce qu'on veut aller, qu'est-ce qu'on veut montrer extrêmement. C'est pourquoi, si je peux modestement conseiller mes collègues photographes, c'est quand vous faites de la photographie, exprimez-vous à travers un appareil photo, c'est très important. Même si l'esthétique graphique du téléphone peut être meilleure que votre appareil photo, exprimez-vous à travers un appareil photo parce que pour moi, c'est ce qui vous permet de vous différencier du commun d'internaute ou bien de celui qui utilise son smartphone.
Alors, est-ce que ça veut dire donc que toi, dans ton travail, dans ton évolution, depuis le début de ton activité de photographe jusqu'à aujourd'hui, tu n'as pas utilisé de téléphone portable ?
À mes débuts, j'ai beaucoup utilisé du smartphone, beaucoup trop même, parce que je n'avais pas tellement le choix, je n'avais pas d'appareil pro. Mais maintenant que la passion vit dans moi, ou du moins que je vis dans la passion photographique, je pense que les photos artistiques que je fais ou que j'aimerais faire, je les fais exclusivement avec l'appareil photo parce qu'il me permet d'exprimer le mieux ce que je veux. Quand bien même que je peux de temps en temps utiliser le smartphone pour les faire les photos, mais ce n'est pas des photos que je peux développer, sinon exprimer à son plein potentiel comme si j'utilisais un appareil photo. Mais honnêtement, moi, le smartphone, je n'ai aucun problème avec. Je ne suis pas de l'école assez radicale que non, le smartphone, non. C'est un appareil, sinon c'est un outil de photographie comme un autre. Mais pour moi, il n'est pas essentiel. Il n'est pas essentiel en photographie. Il n'est pas essentiel. Bien qu'il soit incontournable, il n'est pas essentiel.
Alors, maintenant, on va embrayer sur un autre sujet. Malgré que tu t'en défendes, tu as quand même un bagage technique dans la photographie. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on regarde ton œuvre, on sent quelqu'un qui a déjà une histoire à raconter, mais qui maîtrise les subtilités de la photographie. Est-ce que toi, tu penses, ou alors est-ce que tu le fais déjà, à donner un peu de tes connaissances ou bien de ta maîtrise aux gens, je veux dire, aux enfants ou bien aux amateurs de photographie? Pour être plus trivial, est-ce que tu formes les gens en photographie ou est-ce que tu y as pensé?
Je pense que moi, je suis encore à l'école de la photographie. Ça, c'est sans modestie, hein, René. C'est que techniquement, parce que j'ai souvent des reproches des photographes, déjà, ceux qui me disent que non, tu n'as pas bien balancé les blancs, tu as mis beaucoup de lumière, etc. Mais comme je t'ai dit, ce qui m'intéresse en photographie, c'est la philosophie de la photographie. Aujourd'hui, moi, ça ne me poserait pas de problème de faire des masterclass sur l'art photographique, philosophiquement. Parce que je me cultive beaucoup sur la photographie. Et ça, je pourrais en parler. Mais le côté technique, vraiment, si je te dis que je suis capable de venir parler de photographie techniquement, c'est que je vais m'abuser. Mais que je vienne parler de comment est-ce que voir est important en photographie, comment est-ce que trouver sa niche en photographie, ça, je pense qu'aujourd'hui, je pourrais être capable de transmettre ça aux gens et de discuter exactement avec des gens. Et c'est peut-être ça qui, quand j'essaie de voir mon entourage, manque un peu aux photographes parce que aujourd'hui, tout le monde veut reproduire la photo qui est hypée sur Instagram. Tout le monde ne cherche pas à avoir un œil, à avoir un point de vue spécifique. Or, tout notre environnement est bourré de ces canons. Il suffit juste de voir qu'est-ce que je veux montrer, où est-ce que je veux amener les gens. Et c'est important parce que quand tu es artiste, c'est toi qui donnes la direction artistique, c'est toi qui amènes les gens là où tu souhaiterais qu'ils te suivent. Tu vas pas, donc c'est pourquoi je demande aussi aux gens qui s'intéressent vraiment à la photographie de ne pas trop reproduire ce qu'ils voient sur Instagram, mais de reproduire ce que leur œil leur montre. C'est très important. C'est très important.
Et toi, dans le Grand Nord, est-ce que tu as des retours des personnes qui y résident et qui sont intéressées par cet art-là et qui, quelque part, souhaiteraient que tu les accompagnes dans la prise en main de l'appareil photo, du matériel ou bien des logiciels que tu utilises? Ou alors dans des campagnes de, on va dire des campagnes de photographie, des sorties photographiques. Est-ce que tu as ce genre de sollicitations des personnes qui résident dans le Grand Nord? Je ne parle pas du Sud, du Grand Sud, du Cameroun ou de l'international. Je parle exclusivement du Grand Nord. Est-ce que tu as des personnes qui te sollicitent pour ce type d'activité-là?
Bien sûr que ça ne manque pas. Il y a 2-3 personnes qui s'intéressent à ça et qui, de temps en temps, quand je vais faire mes séances de prise de vue, on va ensemble. Et puis, j'essaie de partager modestement ce que je veux. Mais sauf que, tu sais, l'art photographique, c'est un art solitaire. Et l'intérêt que les gens y portent, c'est... Tu sais, les gens là-bas, comme je te dis, ils ont d'autres problèmes que ça. Moi, j'ai peut-être maintenu ça parce que c'est quelque chose... Je ne peux pas aujourd'hui vivre sans faire des photos. C'est inconcevable pour moi. Donc, peut-être c'est aussi ça qui fait... Mais c'est difficile, c'est difficile. Mais... L'intérêt n'est pas là, mais maintenant, petit à petit, ça commence à venir parce que j'ai 2-3 personnes qui s'intéressent, qui me posent des questions. Et chaque fois qu'elles prennent des images, elles me demandent, est-ce que ça, c'est bien, est-ce que ça... Et je pense que l'intérêt, c'est comme ça que naît l'intérêt dans le Grand Nord.
Et du coup, quel est le regard que les gens posent sur toi là-bas? Parce que déjà, de manière empirique, chez nous au Cameroun, quand tu dégaines un appareil photo, tu mets les gens mal à l'aise. Est-ce que c'est... Est-ce que c'est la même chose dans le Grand Nord ou alors quel est le regard qu'on pose vraiment sur toi?
Je pense que c'est une vérité qui est généralisable dans tout le Cameroun et peut-être même l'Afrique. Hein. Quand on te voit avec un appareil photo, tu es le touriste ou bien tu viens voler l'âme des gens. Il y a souvent cette dualité où les gens sont réticents et les gens sont émerveillés, mais dans un sens où pour eux c'est tu perds ton temps, tu n'as rien à faire, tu veux jouer l'intéressant. Il y a ce côté, mais pour moi, si tu veux, la plus grande difficulté, c'est ce côté où tu as du mal à prendre les gens. Si les gens n'acceptent pas que tu les filmes, comment tu documentes une vie? Comment tu fais un archivage visuel d'où tu es, d'une histoire? Là, maintenant, je suis en train de faire un travail documentaire, par exemple, sur les porteuses délabrées. C'est une pratique qui n'existe plus parce que les dernières porteuses ont plus de 60 ans. Si tu vois dans mon dernier post Instagram, j'ai mis une maman à l'abri. C'est des gens que pour aller les filmer, il faut user de beaucoup de tact, les convaincre, leur dire que la photo que je filme, c'est pas votre âme que je vais aller vendre. Mais je suis en train de documenter quelque chose qui va disparaître. Et si demain, vos petits-fils s'inspirent de ça, de comment vous viviez, ce serait important dans la transmission de ce savoir, de cet art. Donc c'est un peu ce côté-là que je déplore aujourd'hui, parce que même ceux qui font la photo de rue se plaignent. À chaque fois que tu dégaines, c'est des problèmes. Or, on doit accepter cet archivage visuel et comprendre que tout ce que les photographes au Cameroun ou en Afrique sont en train de faire, ils ne le font pas pour leur gain personnel ou bien pour un intérêt particulier, mais ils vendent, ils cherchent à sauvegarder quelque chose sur le long terme.
Excuse-moi, tu as parlé des porteuses délabrées. C'est quoi les porteuses délabrées?
C'est-à-dire, c'est des mamans qui portent des pièces en bois de part et d'autre de la bouche. Et c'est un objet esthétique, ornemental qui existait dans les cultures du Grand Nord depuis très longtemps. Et maintenant, c'est dépassé. Et derrière ça, sinon derrière le point éditorial que je vais donner à ça, il y a toute une pratique, un tas de choses que je ne vais pas dévoiler ici parce que sinon je vais tout donner ici et les gens ne vont pas s'intéresser au travail futur. Mais c'est comme ça que je t'ai dit. Il y a derrière ça une histoire de violence féminine, etc. Donc, je n'en parle pas plus en fait.
Je précise aux auditeurs que la porteuse délabrée est le sujet de la dernière photo que Désiré a posté sur Instagram au moment où on fait cet enregistrement. On va bientôt sortir de cet entretien. J'ai une petite curiosité. Est-ce qu'aujourd'hui tu travailles avec des organismes internationaux ou même nationaux ou avec, on va dire, quelque part avec le ministère du tourisme ou l'office qui s'occupe du tourisme au Cameroun ou avec d'autres organismes, que ce soit dans le public ou dans le privé aujourd'hui? Dans le cadre de la photo,
je pense que c'est une bonne occasion que tu me donnes de lancer un appel aux organismes locaux qui souhaiteraient être accompagnés. Je vais le faire bénévolement, honnêtement, pour les organismes humanitaires et tout. Je vais le faire bénévolement à condition qu'ils aient mes commodités. Mais déjà, j'accompagne quelques organismes, quelques associations sur le terrain en documentant leurs activités, etc. C'est déjà important. Et puis, tu sais, la photographie humanitaire aussi m'intéresse beaucoup parce que c'est un point de vue. En fait, il n'est pas radical, mais il exprime quelque chose. Et moi, je pense aujourd'hui que c'est important dans la direction que j'ai envie de me donner sur le long ou le moyen terme. Donc, si parmi tes auditeurs, il y a des gens qui veulent me donner le travail dans l'humanitaire, je suis partant à 100%. Et si ce sont des associations locales qui n'ont pas de moyens, vraiment, je suis prêt à les accompagner bénévolement pour ça, qu'elles ne s'économisent pas de venir vers moi. Comme je te dis, c'est quelque chose, la direction que moi je vais donner à ma photographie, ou bien que je donne à ma photographie, c'est une direction humaniste. Et je ne vais pas mettre mon profit ou l'argent devant. Ça, non.
Alors, Daisy, on va vraiment, vraiment sortir de cet entretien. Est-ce que tu as un dernier mot pour les auditeurs de ce podcast?
Déjà, je les remercie du temps qu'ils auront pris à m'avoir écouté. J'espère que je ne les ai pas beaucoup ennuyés et qu'ils vont venir, qu'on en discute photographie ou autre chose. Je suis ouvert à tout et très grand merci à toi et bonne chance pour la suite du podcast parce que moi, je le suis. Je suis un auditeur régulier et honnêtement, c'est quelque chose qui sort du lot sans te jeter les fleurs.
Ouais. Merci beaucoup, Désiré, d'avoir accepté mon invitation et j'espère à très bientôt. Et on attend toujours tes photos sur Instagram.
À très bientôt et grand merci à toi, René.
Merci d'avoir écouté ce 7e épisode de la première saison de N.com, le podcast du numérique et des médias. Comme vous l'avez compris, Daisy Danga expose son œuvre sur Instagram où vous retrouverez la magie et la féerie de ses photos. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez apprécié. Le podcast est disponible sur Google Podcast, Apple Podcast et sur Spotify. N'hésitez pas à laisser un like ou un commentaire. Rendez-vous le mois prochain avec une nouvelle actrice ou un nouvel acteur du numérique et des médias au Cameroun. À bientôt.